Chapitre 9 et dernier, la mort lente. On comprend aisément que l'instruction de l'affaire de Chu ne traîna pas en longueur. Ming, qui n'avait pas moins hâte de se venger de la série d'humiliations qu'il devait à l'ancien boucher que de se réhabiliter comme magistrat, mena si rapidement les choses que 3 jours après son arrestation, l'assassin comparaissait devant la justice. Nos lecteurs se souviennent de cette salle d'audience où nous les avons introduits au commencement de ce récit pour les faire assister au martyre de Saul Brodé et de son cousin. La foule y était plus considérable encore qu'à ce dernier procès. 2 rangs de soldats de police pouvaient à peine la contenir. Lorsque Chu parut entre les gardiens qui le conduisaient par une chaise de fer, elle éclata en 1000 cris de colère. Elle voulait protester aussi contre la haine qu'elle avait témoignée quelques semaines auparavant à 2 innocents. Mais ces manifestations ne prirent pas un seul instant le misérable. Après s'être avancé aussi rapidement que le lui permettaient ses sinistres guides, il s'était planté, la tête haute et le regard chargé d'éclairs, au pied de l'escalier qui menait au prétoire. Ainsi que d'ordinaire, les marches de cet escalier étaient occupées par les aides de l'exécuteur armés de leurs instruments de supplice, mais les assistants craignaient qu'ils ne fussent inutiles. Il était probable, en effet, que Chu renouvellerait devant ses juges les aveux qu'il avait faits dans la prison. Quant à Ming, il avait repris son siège présidentiel. Jamais il n'avait été plus grave, plus digne, plus orgueilleux de son poste, plus pénétré de la gravité de ses fonctions. À la sollicitation de Perkins, il avait dispensé Saul Brodé de paraître au débat. Mais Ité, le principal accusé de jadis, était là, sur un des sièges réservés de l'estrade, à quelques pas du tribunal et auprès de Madame Liu. Le président de la cour criminelle avait jugé leur présence indispensable. Il n'y manquait pas non plus le contrebandier et son ami Sir Arthur, qui avaient joué un rôle si important dans l'arrestation du véritable coupable. Le vice-roi lui-même s'était fait représenter par un de ses officiers. Lorsqu'il eut obtenu le silence nécessaire, et il ne fallut rien moins pour arriver à ce résultat que la distribution par les agents de FOAP d'un certain nombre de coups de fouet sur l'auditoire, Ming prit solennellement la parole. « Vous êtes bien le maître Chu, ancien boucher à Funsi ?» demanda-t-il à l'accusé. « C'est mon nom, » répondit celui-ci d'une voix rude, « et j'ai été boucher à Funsi. » « Vous avez assassiné Ling Talang la nuit de ses noces ?»« Oui. »« Et pourquoi avez-vous commis ce crime ?»« Parce que je voulais me venger. »« Vous venger, mais de qui ?»« De Saul Brodé, qui m'avait trompé, qui, après m'avoir souri et envoyé des fleurs, promis sa main, l'avait donné à un autre. »« Mais tu mens, infâme !» interrompit Madame Liu, qui n'avait pu rester maîtresse de son indignation en entendant accuser sa fille d'une telle duplicité. Chu, sans répondre, haussa les épaules. « Cette jeune fille, dit le président, n'a jamais fait attention à vous. Sa servante était notre intermédiaire. Mais cette femme vous a induite en erreur. Jamais elle n'a parlé de vous à sa maîtresse. » Jamais celle-ci ne l'a chargée d'exprimer des sentiments qu'elle ne pouvait éprouver pour vous. » À cette affirmation de l'intrigue dont il avait été le jouet de la part de Rose, qui n'avait jamais osé rien lui avouer, l'assassin tressaillit. On le vit pâlir. Il se souvenait tout à coup des réticences de l'astucieuse domestique, de ses explications diverses pour excuser le silence de Mademoiselle Liu, et il comprenait que c'était cette Rose qui lui avait envoyé un soir par la fenêtre ces deux boutons qui avaient achevé de le rendre fou d'amour. Il restait bien la goutte d'eau qu'il avait reçue sur le visage le jour où Sol Brodet arrosait ses fleurs et l'éclat de rire de la jeune fille, mais cela ne prouvait rien contre elle. Le hasard avait pu causer le premier de ces événements, et quant au second, qui en était la conséquence, ce pouvait n'être qu'un véritable enfantillage. En se présentant tumultueusement à l'esprit du meurtrier, ses pensées étaient pour lui une douleur plus terrible que toutes celles qu'auraient pu lui infliger les instruments de torture. Il ignorait l'expédition des Anglais aux Ladrones, puisque c'était le matin même du jour où Wang Mu avait été saccagé qu'il était parti pour Canton. Et il se souvenait avec colère qu'au lieu d'amener avec lui cette fille qu'il avait si audacieusement trompée, il l'avait cédée à Wumpi, dans la joie cruelle que lui avait fait éprouver l'incendie de la goélette de Perkins et le dénouement du drame de Lama. Sans cet acte de faiblesse, elle au moins serait là, près de lui, devant la justice, et sa vengeance atteindrait quelqu'un. Les traits de Chou reflétaient chacun de ses regrets, et il en paraissait plus hideux encore. « Il est malheureux, reprit Ming, que cette servante ait cessé de vivre, car il eut certainement avoué ses fautes. Mais un de vos complices, Wumpi, par qui vous l'aviez fait enlever de Funsi, afin qu'elle ne pût nous dire la vérité, la tuer, plutôt que de la rendre à ceux qui, par un acte de juste représailles, ont délivré le bas du fleuve des pirates que vous commandiez. » À cette nouvelle, les yeux du boucher s'injectèrent de sang, et les gardes durent peser sur les chaînes qui le retenaient, car il avait fait un mouvement pour s'élancer vers Perkins, qu'il avait reconnu derrière le tribunal. « D'ailleurs, poursuivit le magistrat, lors même que Mademoiselle Liu eut répondu à vos avances, ce qui ne pouvait être, votre crime n'aurait pas été moins infâme, car le jeune Ling était innocent, et c'est lui que vous avez assassiné. Comment avez-vous frappé cet infortuné ?» L'accusé ne répondit pas. Il était tout entier à sa haine et au désespoir que lui causait son impuissance. Ming répéta sa question, et Chou, gardant toujours le silence, il fit un signe au bourreau. Cet homme et ses aides s'approchèrent du bandit. À leur contact, il sortit de sa torpeur. « C'est inutile, dit-il, la souffrance ne m'effraie pas, mais je vais parler. » Il raconta alors, d'une voix sombre, comment il s'y était pris pour tuer Ling Talang, après l'avoir empoisonné, en lui offrant dans le jardin un verre d'eau-de-vie de riz que, pour se conformer à l'usage, il n'avait osé refuser. L'auditoire ne perdait pas un mot de cet épouvantable récit. Chou n'oublia rien. Il se complut avec cynisme dans les détails de son forfait, et lorsqu'il lui racontait son arrivée aux Ladrones, ses expéditions et ses vols, il termina en disant « Je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas m'être davantage vengé. Maintenant, faites de moi ce que vous voudrez. » La foule répondit à ces derniers mots du meurtrier par des cris de malédiction, mais Ming lui imposa sévèrement silence, et après s'être entretenu quelques instants avec ses assesseurs, il prononça d'une voix grave ces paroles. « Nous, Ming Liu Ti, mandarin de troisième classe, président de la cour criminelle de Canton, rendons le jugement suivant. La nommée Saul Brodet et le nommé Ité, accusés faussement d'avoir assassiné le seigneur Ling Tialang et condamnés pour ce crime dont ils sont innocents, seront mis immédiatement en liberté. Au nom de la justice, je leur exprime les plus profonds regrets de l'erreur commise à leur sujet. Le nommé Chou, ancien boucher à Funsi, reconnu coupable de ce même assassinat, qu'il avoue, et condamné à la peine de la mort lente. Le même Chu, ayant ajouté à son premier forfait plusieurs vols et attentats à main armée, accomplis à la tête des pirates dont il était le chef, nous ordonnons, pour nous conformer aux instructions de notre auguste vice-roi, le prince Kong, qui ne sera pas sursis à son exécution pour l'envoi du dossier de l'affaire à Pékin, mais que cette exécution aura lieu demain à midi sur la place publique, près de la prison provinciale. La réhabilitation des deux innocents et le châtiment du coupable seront proclamés aujourd'hui même dans la ville et dans les faubourgs, afin que le peuple puisse dans cet événement l'exemple du respect aux lois. Garde, emmenez le condamné. Le directeur de la prison en répond sur sa tête. Faites évacuer la salle des audiences de la cour criminelle. En entendant prononcer ce jugement qui le condamnait au supplice le plus horrible, Chu était resté impassible. Et sans tenter une résistance, d'ailleurs inutile, il suivit ses guides. Madame Liu et Ité s'étaient empressés de disparaître pour délivrer seul Brodé. Quant à Ming, après avoir accepté avec une touchante modestie les compliments de Perkins et de Sir Arthur sur la manière dont il avait dirigé les débats, il s'était retiré dignement, ainsi qu'il convenait, à un homme de son importance. La nouvelle de la condamnation de Chu fut bientôt connue de la population tout entière, car moins de 2 heures après le jugement, le texte en était déjà répandu partout à des milliers d'exemplaires. Aussi, le lendemain matin, bien avant l'heure fixée pour l'exécution, la place où elle allait avoir lieu était-elle occupée par une foule immense. Des femmes, cruellement curieuses, se montraient sur les terrasses des maisons voisines. En attendant l'arrivée du condamné, le peuple se plaisait à assister au spectacle de la construction de l'échafaud. C'était une large estrade d'une dizaine de pieds de hauteur et adossée à ce mur de la prison, où se balançaient toujours des cages contenant des têtes humaines. Mais on n'apercevait sur cette estrade ni gibet ni billot. Le supplice que devait subir Chu les rendait inutiles. C'était un épais madrier dressé contre la muraille qui serait attaché et maintenu dans l'immobilité la plus absolue pour expirer de la mort lente. Les aides de l'exécuteur terminèrent enfin leurs lugubres préparatifs, la porte de la prison s'ouvrit et on vit paraître l'assassin. 2 soldats de police l'entraînaient la chaîne au cou. Il n'avait rien perdu de son audace, le même sourire féroce crispait toujours ses lèvres. Tout en promenant son regard farouche sur ce qu'il fuyait, il s'avançait d'un pas ferme. Rumi le suivait en portant sur son épaule un pesant madrier panier qu'un morceau d'étoffe rouge recouvrait de façon à en cacher le contenu. Ils gravirent ensemble l'escalier de l'échafaud et pendant un instant, Chu disparut au milieu de ceux qui l'entouraient. Mais bientôt il resta seul avec l'exécuteur, et on le vit debout, lié par le cou, les bras et les jambes, au madrier. Le bourreau se pencha sur son panier qu'il avait déposé sur l'estrade, et y glissant la main sans le découvrir, il en tira un long couteau à 2 tranchants, sur le manche duquel ces 2 mots « bras droit » étaient gravés. Il cria ces mots à haute voix en faisant face à la foule, puis se retournant brusquement vers le condamné, il lui enfonça d'un seul coup son arme dans le bras droit, qu'il cloua ainsi au madrier. Chu tressaillit à peine. Rumi se pencha une seconde fois, saisit un second couteau, jeta à la populace les mots « épaule gauche !» et la lame disparut dans cette partie du corps du misérable qui ne put retenir un cri de douleur. L'assistance y répondit par un hourra. Le tourmenteur se pencha, s'arma de nouveau, toujours au bazar, et le visage du boucher se couvrit d'un flot rouge. C'était dans un de ses yeux que le couteau de Rumi venait de pénétrer. On avait entendu le choc de la tête de Tchou contre le bois, puis elle était retombée sur sa poitrine. Ce fut alors un épouvantable combat entre la souffrance et la torture, entre la vie et la mort. Le supplicié se tordait pour échapper à chaque nouveau coup. Les cordes qui le retenaient s'imprimaient dans sa chair. L'estrade gémissait sous ses efforts. Ses hurlements de douleur allaient en s'affaiblissant. Dans la foule, ce n'était plus de l'enthousiasme, c'était du délire. Le bourreau, affolé lui-même, ivre, couvert de sang, ne prononçait plus d'une seule parole. Il puisait dans le sinistre panier et frappait, frappait toujours, bien que sa victime fût morte, car prenant sans doute le monstre en pitié, malgré ses crimes, Bouddha avait voulu que le sixième poignard fût celui dont le manche portait le mot « cœur ». Mais la loi, qui n'existe plus, et dont les pirates et les rebelles tous étaient jadis justiciables, voulaient que les 20 couteaux servissent tous les uns après les autres. Et le peuple applaudissait celui qui s'acharnait contre un cadavre. Enfin, Rumi souleva le panier pour faire voir à tous qu'il était vide, et la foule poussa un dernier hourra. L'horrible drame de la mort lente était terminé. À la même heure, la petite ville de Funxi était le théâtre d'un spectacle tout autre. La nouvelle de l'innocence de Saul Brodé, innocence dont chacun avait toujours été convaincu, et celle de la condamnation de Tchou, y avait causé une joie immense. Toute la population s'était portée au-devant de Madame Liu et de sa fille, que Ming avait voulu reconduire lui-même dans sa gondole pavoisée. Lorsque les deux femmes mirent pied à terre, mille acclamations joyeuses les accueillirent, et elles durent passer sous les arcs de feuillage dont la rue des Batteurs d'Or était ornée en leur honneur. Le gros mandarin donnait le bras à Madame Liu, Ité serrait celui de sa cousine contre son cœur, et le jeune lettré était tout à fait remis de ses blessures. Saul Brodé commençait déjà à reprendre sa fraîcheur et sa beauté d'autrefois. Perkins et Sir Arthur les suivaient. Le cortège atteignit bientôt cette petite maison où le malheur s'était si impitoyablement introduit 3 mois auparavant, et au moment où Ming s'inclinait respectueusement devant Madame Liu pour lui faire ses adieux, celle-ci jeta un cri de surprise. La maison de Tchou avait disparu. L'emplacement qu'elle occupait, il y avait quelques jours à peine, s'était subitement transformé en un jardin délicieux, au milieu duquel s'élevait un ravissant kiosque. C'était le riche président de la cour criminelle qui, à coup de piastre, avait obtenu ce miracle des jardiniers chinois. « Madame, dit-il à la mère de Saul Brodé, j'ai voulu que rien ne pût rappeler le passé à votre charmante fille. Je vous prie de l'autoriser à accepter ce souvenir comme expression de mes regrets et cadeau de noces. » Fort ému de ce procédé et oubliant au milieu de sa joie tout ce que cet homme lui avait fait souffrir, Madame Liu parut à peine trouver quelques mots de gratitude. Le gros magistrat, un peu embarrassé lui-même de son rôle, profita des hésitations de son interlocutrice pour la saluer une dernière fois, et se retourna vers son ami Perkins, qui lui tendit les mains en disant « C'est très bien, Ming, vous êtes décidément un brave cœur. » « Mon cher capitaine, répondit modestement le mandarin, je fais de mon mieux pour vous ressembler, mais partons, ces émotions me troublent. Heureusement que j'avais prévu cela. Mon cuisinier m'a préparé pour me remettre un excellent dîner que je vous offre de partager avec moi. J'espère que votre ami me fera également l'honneur d'accepter mon invitation. » Sir Arthur s'inclina en souriant. Ming, avec le plus touchant abandon, passa son bras sous celui du contrebandier et sa gondole reprit bientôt la direction de l'île de Honan. Une heure après, pendant que l'exécuteur enlevait de l'échafaud le corps mutilé de Chu, Saul Brodet et Ité fixaient la date de leur prochaine union, et le sybarite magistrat, en prenant place avec ses invités à une table somptueusement servie, leur disait d'une voix émue « C'est égal, mes chers amis, je l'ai échappé belle. Sans vous en ce moment, au lieu de fêter la réconciliation de la Chine avec l'Angleterre, je recevrais peut-être 100 coups de bambou. » Tel fut le dénouement de l'erreur judiciaire du président Ming. Mais pour laisser à ce récit, jusqu'à sa dernière ligne, la couleur locale que je me suis efforcé de lui donner, en invoquant mes souvenirs de voyage, je veux le terminer par cette réflexion philosophique que j'ai lue au bas du manuscrit du lettré Tin Tun Long qui me fournit le sujet du fleuve des perles. Par quel mystère une goutte d'eau destinée à faire naître des fleurs a-t-elle au contraire fait couler des flots de sang ? Fatalité !